mercredi à tous. Bienvenue au show du matin. Max Hoc, comment est-ce qu'il va?
En feu, ce matin, on reçoit des invités de première classe, dont le prince des Laurentides, le Barbu de Ville. Comment va, Barbu?
Ça va super bien, merci, Max. Super bien, en forme. Commence le gym lundi.
OK.
Là, je fais du bench press. Je fais un chest, bicep, tricep, quadriceps.
Quadriceps?
Ça, c'est pour les dames qui écoutent présentement Baseball Québec. Ah,
c'est pas un show pour Tinder, là, Barbu.
Non.
Barbu, tu nous reviens après une semaine de congé avec une autre histoire, cette fois celle de Charles Poldhaus Radburn.
Ouais.
Dit Radburn.
Radburn.
Yeah, je te laisse aller avec ça à partir de là. Encore une fois, le show est à toi.
OK, parfait. C'est bon, j'aime ça. Ben, pour situer, là, bon, le titre, c'est Charles, comme le dit GF, Poldhaus Radburn. Mais pour situer l'histoire, ça se passe dans les années 1800. J'ai beaucoup de fascination pour ce temps du baseball qui se situait carrément dans le temps du Far West. Les meilleures années de Poldhaus, là, il les a passées à Providence avec les Grays dans Rhode Island. Pendant ce temps-là, Billy the Kid, le vrai Billy the Kid, là, pas dans le film Young Gun avec Emilio Estevez, là, le vrai Billy the Kid, là, il faisait la pluie et le beau temps un peu partout dans le Colorado et en Californie. Fait que ça vous dit et ça vous démontre l'époque, comment que, à cette époque-là, le baseball était dur. Mais vraiment, aujourd'hui, on a souvent l'impression que le baseball, c'est un sport pour les pépères. Souvent, on entend ça, tu sais, qu'un bedonnant peut y performer. Mais à cette époque-là, tel n'était pas le cas. Seulement les plus toughs jouaient au baseball. Les lanceurs, exemple, ils ne lançaient pas juste 100 balles dans une game ou ils ne se rendaient pas juste « Hey, aujourd'hui, tu te rends sixième manche, c'est un miracle. » Mais c'était pas ça à l'époque. Donc, on y va tout de go avec Poldhaus. On commence tout de suite en vous disant ça veut dire quoi, Poldhaus? Je l'ai cherché moi-même, je ne le savais pas. Poldhaus, on dit de Poldhaus que c'est une personne grande, forte et fiable. Ben, après cette histoire-là, vous allez comprendre qu'il porte mauditement bien son surnom. Fait que ce bon vieux Charles est né le 11 décembre 1854. Ça, mesdames et messieurs, c'est 6 ans, pour vous dire combien ça fait de temps, c'est 6 ans avant l'élection d'Abraham Lincoln comme président des États-Unis. Il est décédé le 5 février 1897 à l'âge de 42 ans, mais à cette époque-là, 42 ans, c'était vieux. Il aura, à sa façon bien unique, marqué le monde du baseball et les ligues majeures. Il a connu une carrière de 12 ans qu'il aura vu jouer, entre autres, avec les Bisons de Buffalo, les Grays de Providence, les Braves de Boston et les Reds de Cincinnati. Il a été nommé au Temple de la Renommée par les vétérans en 1939. Comme adolescent, il travaillait en boucherie avec son père et jouait au baseball semi-pro dans l'Illinois pour l'équipe de Bloomington. J'aime ça dire ça, l'Illinois. Il a fait ses débuts dans les majeures pour les Bisons de Buffalo comme deuxième but. Lui qui fut élu au Temple de la Renommée comme lanceur. Pas longtemps après, il est retourné pour son équipe semi-pro à cause de ses performances médiocre au deuxième but. En fait, il a frappé pour 118 lors de son passage à Buffalo. Il était le lanceur numéro 2 de son équipe semi-pro quand elle a affronté en partie d'exhibition les fameux Grays de Providence qui, à l'époque, étaient des majeurs dans la Ligue nationale et dominaient le baseball. Il a tellement impressionné les dirigeants de Providence qu'il est engagé sur le champ, même pour la rondelette somme de 1 400 $ par mois. Pas besoin de vous dire qu'en 1881, 1 400 $ par mois, c'est beaucoup de billes du Dominion. En 1884, grâce au turbulent et alcoolique lanceur Charlie Sweeney, la carrière de Poldhaus allait prendre un autre tournant. Sweeney fut banni du baseball majeur pour plusieurs frasques sur et hors terrain. Ben, probablement qu'à un moment donné, je vais vous faire une chronique sur Charlie Sweeney. Le problème de l'époque, ben, il était bien simple. La rotation de lanceurs ne contenait que deux joueurs, aucun releveur. That's it, that's all. Pas une rotation de 5, puis 22 releveurs, puis un passe une mop, puis un gars spécialisé en, pour deux lancers contre un gaucher, ben non, ça n'existait pas. Nous étions au Far West du baseball, comme je l'ai dit précédemment. Nous n'étions pas à l'époque du « lance pas plus que 100 lancers par partie, c'est pas bon pour ton bras ». Là, dans cette saison-là, il restait 40 parties à jouer dans la saison régulière. 40. Pauvre homme, il est tout seul. Ben, Charles Old Us, Radbourne, a remporté 36 de ses 40 parties. À la fin de la saison, il ne pouvait plus soulever son bras par-dessus son épaule, littéralement. Il ne peut pas y en vouloir pour ça. En 1884, il a lancé pendant 678 manches. Ce qui est à années-lumière du record du plus grand nombre de manches en 2019 par Justin Verlander, 223. C'est le trip. Une ronflante moyenne en plus de 1.38. En plus, jusqu'à ce jour, 60 victoires, qui d'ailleurs sont toujours le record des majeurs en une saison. Record. Là, on va faire un gros statement un matin, là. Record qui, je confirme ce matin, ne sera jamais battu. Mais c'est clair. Un gars, maintenant, partant dans une année, va lancer 36 fois, là. Fait que tu peux pas te rendre à 60. C'est mathématique. Je crois. Bon. De plus, il a lancé tous les matchs de la Série mondiale cette saison-là. En plus de remporter le Triple Crown, la triple couronne, victoire moyenne, retrait sur des prises. La légende de Old Us, Radbourne, est né en 1884 et maintenant résistera à l'épreuve du temps. Voilà.
Solide. Ouais. Solide barbu. Mais 60 victoires, seul un releveur pourrait peut-être talonner cette marque, mais j'en doute.
J'en doute aussi. C'est mathématique.
C'est mathématique. Il cherche des profs de maths à l'école secondaire du coin. T'entends-tu? Ben,
c'est ça, je me disais peut-être à Poly, il me semble que je serais bon le matin. Là.
36, 60, 60 est plus grand que 36. La base. C'est...
Non, la base. On commence par ça.
Excellent. Non, écoute, c'est impressionnant. Pareil. Je peux pas croire. 40, tu as 40 départs back-à-back. Bonsoir. Oh,
j'ai oublié de dire qu'il y a eu un bonus par l'équipe. Providence a rajouté sur sa paye du mois là-dessus. Là.
J'espère. Mais c'est grassement payé pour ce temps-là, par exemple.
C'est ridicule.
Surpris?
Oui, mais c'est le temps du Far West, donc égal mafia, égal gamique. Les gars faisaient des Ty Cobb, là, il a fait des montants ridicules. Là.
Non, mais juste te dire, ce gars-là gagnait plus qu'un joueur des ligues mineures il y a peut-être 2-3 ans.
Ah ouais, c'est ça.
Un gars des ligues mineures faisait moins que ça.
Ah, probablement que les gars avec les capitales, ils font moins que ça. Là.
Ah, ils font moins que ça. Je te garantis.
Ouais, ben,
par mois, ils font moins que ça.
Bon, oui, pour avoir parlé qu'une couple de gars, là, il y en a que c'est 900$ par mois. Là.
Ouais. Il y a quelques Rue. Années, c'était 800.
Hey, ouais, imagine.
C'est US, sûrement. Peut-être les capitaines sont payés en US, je sais pas, c'est une autre discussion. Barbu, on garde avec nous autres parce qu'on t'aime bien. On fait une petite pause, mais on va retrouver Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB. On revient dans deux secondes. Monsieur Brisebois, comment ça va?
Ça va super bien. Comment ça va, vous autres?
On se porte à raver. Après un texte comme ça, là, tu peux pas te sentir mieux que ça.
Non, on s'entend, c'est inspirant hein, d'entendre un gars comme ça. 40 départs de suite, j'ai fait le saut.
Je sais même pas ça dans ma ligue de bière.
Charles-Alexis, je t'ai demandé, j'avais envie que tu viennes expliquer aux gens, puis même je m'inclus là-dedans parce que je t'avoue que je ne suis pas ça dans le quotidien, ce qui se passe avec la grève, mais j'ai quand même envie de t'envoyer sur un petit quelque chose parce que je viens d'avoir un flash. Je suis le seul fan des Red Sox ici, puis j'ai deux fans des Yankees, je me trompe pas, là, barbu. Là. Qu'est-ce qui se passe avec les... Ouais, mais il n'existe plus, là. Fait que pense à autre chose maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec les Red Sox et Yankees rapidement, là, en quelques mots, là? Est-ce qu'il y a des rumeurs, si la grève se termine un jour, qui pourraient amener des joueurs intéressants ou voir des joueurs quitter, là?
Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des ajouts qui vont être faits là, après le lockout. Si tu regardes là, les Red Sox de Boston, moi, je pense que Seiya Suzuki va signer là. On a échangé un gars comme Hunter Renfrow contre Jackie Bradley Jr. Je pense que ça cache quelque chose. Là, on n'est pas si épais que ça du côté de Boston. J'ai vraiment le sentiment qu'on veut combler un trou dans la droite avec le voltigeur qui va peut-être débarquer là, du Japon. C'est un gars qui est quand même assez intéressant, qui a de la puissance. Donc, j'ai vraiment l'impression que Seiya Suzuki pourrait signer là. Je m'attends peut-être à de l'aide en relève aussi, peut-être dans l'avant-champ. Pour ce qui est des Yankees de New York, ben ça va prendre un arrêt court. Je pense pas que ça va être un arrêt court de type Carlos Correa ou Trevor Story. Je pense que ça va être plus un Andrelton Simmons ou un gars du genre pour le gap, dans le fond, entre le présent et le moment où les jeunes espoirs vont arriver. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Mais tu sais, les Yankees, c'est les Yankees. Puis une fois qu'ils vont connaître la hauteur de la taxe de luxe, ben peut-être qu'ils vont se dire, on veut aller chercher un Freddie Freeman, on veut aller chercher de l'aide dans le champ extérieur au champ centre pour assurer un petit peu plus de stabilité. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités aussi de ce niveau-là. Ça va peut-être passer par des lanceurs, mais j'ai l'impression que les deux équipes se sont gardées de l'argent en se disant, après le lockout, on va avoir une meilleure idée de l'enveloppe salariale de la MLB, puis là, on va pouvoir dépenser.
Et autant que j'aime Freeman, que j'aime les Yankees, j'espère que Freeman va rester avec les Braves d'Atlanta quand même.
Ça serait le fun, mais on dirait que la situation me fait de plus en plus penser à Albert Pujols en 2011. T'sais, on se dit, il n'y a aucune chance qu'il quitte Saint-Louis, il y a les cartes à tatouer sur le cœur, puis finalement, ces gars-là, ils veulent se sentir respectés. Hein. C'est pas tant l'argent, mais c'est une question de se dire, tu sais, t'es Freddie Freeman, le rendu au 2 décembre quand le lockout a pété, là, lui, il se dit, hey, pourquoi le contrat n'est pas encore signé? Pourquoi j'ai pas encore reçu l'offre que je mérite? Fait que moi, j'ai l'impression que s'il y a une équipe qui donne de l'amour, là, vraiment beaucoup après le lockout, là, ça pourrait se faire de ce niveau-là. Puis moi, je surveille les Dodgers de Los Angeles, sincèrement, parce qu'ils ont perdu Max Scherzer, Clayton Kershaw est agent libre, Corey Seager est plus là, c'est un gars de la Californie. Eux, s'ils se disent, ben, tu sais quoi, nous autres, le gros frappeur gaucho au premier but qui est capable de gagner une série mondiale puis de nous aider à en gagner une autre, on veut aller le chercher, on veut le ramener à la maison. Moi, là, sincèrement, si je suis Alex Antopoulos, j'ai vraiment peur de ce que les Dodgers peuvent faire dans ce dossier-là, parce que je crois encore qu'il y a des chances, évidemment, de revenir à Atlanta, mais de moins en moins.
Les Dodgers, personnellement, me font plus peur que les Yankees à ce niveau-là. Mais moi aussi, comme Max, je souhaiterais qu'ils restent avec les Braves, comme j'aurais souhaité que Pujols reste avec les Cards. Là.
Oh, ça le souhaite tous, vraiment. Ce serait le fun que ce soit vraiment Monsieur Brave d'Atlanta et que marque cette franchise-là. On s'entend là-dessus. Là. Tout le monde souhaite ça. Même je pense que les rivaux de division des Braves souhaitent ça, là, tellement c'est une belle histoire.
Absolument. Je te laisse, Jean, explique-nous un peu la grève, pourquoi, où est-ce qu'on est rendu, puis est-ce qu'il va y avoir du baseball cette année?
Écoute, la réponse à pourquoi, je vais te dire parce que. On dirait qu'à ce point-ci, c'est rendu tellement gros, c'est rendu tellement démesuré comme négociation. Puis je dis comme négociation, mais dans les faits, je me trompe parce qu'il n'y en a pas de négociation. Il y a très, très peu de séances. Là, ça fait déjà près de deux semaines qu'on n'a pas négocié sur les dossiers économiques concernant évidemment le nouveau contrat de travail. Je trouve ça difficile de voir ça, de pas négocier puis de se dire à quel point la MLB veut couper dans le gras au niveau des jeunes joueurs. Puis selon moi, il est beaucoup là le nerf de la guerre parce que on le sait, bon, Rob Manfred l'a dit, il va avoir un frappeur de choix universel, on s'y en attendait. Il y a des décisions faciles comme ça qui vont être prises. Puis je pense pas que c'est le fait qu'on hésite à avoir 6 ou 7 équipes par ligue en série qui fait en sorte que 2 mois et demi plus tard, on est encore à attendre. C'est vraiment au niveau de l'argent que ça bloque. Puis c'est un exemple concret, là, il y a quelques semaines, les joueurs, eux autres, ils veulent vraiment que les plus jeunes soient mieux payés parce que c'est beau des Max Scherzer à 43 puis des Trevor Bauer à 45 puis des gars comme ça qui gagnent 40 millions, mais si la majorité de tes gars gagnent moins que 500 000 $ par année, ben, c'est quelque chose que tu veux vraiment monter vers le haut. Les joueurs ont proposé de se dire, ben, écoute, les joueurs qui sont pas encore admissibles à l'arbitrage, peut-être que les 30 meilleurs de ce lot-là pourraient avoir un boni. Tu sais, on pense, mettons, à un Guerrero Junior là, qui a gagné moins $1 million cette année, mais qui a été deuxième dans la course au MVP. Les gars de ce genre-là, tu sais, ça gagne pas assez. Puis on se dit, ben, peut-être qu'on pourrait avoir un pool d'argent, si tu veux. Les joueurs proposent que pour les 30 meilleurs joueurs de ce type-là, on se sépare un lot de 105 millions de dollars. La MLB propose 10. Tu sais, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Là, on est 10 fois trop loin. Pendant ce temps-là, la MLB, ça n'a pas exactement rapport aux majeurs, mais qui propose de ne pas payer les gars des mineurs qui se présentent au camp d'entraînement parce que selon eux, c'est eux qui en bénéficient le plus. Puis ça coûte déjà assez cher de les avoir là. Fait que clairement, la MLB sait que les joueurs veulent payer leurs plus jeunes coéquipiers et eux autres ne veulent pas du tout se rendre dans cette direction-là, ou du moins là, des progrès qui sont très, très, très minimes. Là, on propose de monter le plafond salarial, mais de très, très peu. Donc, c'est assez difficile la situation présentement parce qu'il n'y a personne qui négocie de bonne foi. Moi, ça me fait penser à 2020 quand on se faisait des offres ridicules pour revenir au jeu. Clairement, on n'a pas envie de faire une fleur à l'adversaire. On veut vraiment avoir tout de notre côté. Là, puis l'expression mettre de l'eau dans son vin, bien clairement, les deux veulent boire du vin puis veulent que l'autre boive de l'eau, là, parce que ça n'a aucun bon sens ce qui se passe en ce moment.
Ouais, puis ce qui m'assomme le plus dans ce dossier-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne se rencontrent jamais. C'est comme tu as une chicane avec ta femme, mais vous décidez de ne pas vous parler, puis de ne pas vous rencontrer, puis de ne pas régler la situation. Non, c'est vrai. Il n'y a jamais de rencontre, il n'y a jamais rien qui se passe. Ils s'envoient un offre chaque, ils se rencontrent une demi-journée, ils ne sont pas d'accord, ils retournent de chacun de leur bord, il ne se passe rien, puis tout est beau, là, mais là, présentement, on est quoi? On est le 16 février. Mm-hmm. Les gars se rapportent au camp d'entraînement. Là, les lanceurs, les receveurs commencent à arriver. Les joueurs de position devraient suivre. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il n'y a personne qui est pressé par le temps, mais on va manquer des matchs. On n'aura pas le choix, là.
Ben, je suis persuadé que oui, parce que tu regardes la façon que ça se passe. Là, il faut avoir un camp d'au moins 4 semaines. Puis ça, Rob Manfred l'a affirmé. Ça va prendre à peu près 1 semaine de se rendre jusqu'au camp. Donc, tu dis la saison est dans 6 semaines. Il faut que ça dure au moins 5 semaines entre la signature du contrat pour la semaine de gap puis le 4 semaines de camp. C'est parce qu'il reste 1 semaine puis on négocie pas. Là, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas parlé de dossier économique. Là, comment tu veux qu'on s'entende à ce niveau-là? Donc, moi, je ne crois plus du tout à la possibilité d'une saison de 162 parties. Je pense qu'on va s'entendre. Puis depuis des mois, moi, je dis, je pense pas qu'on va descendre en dessous de 130 matchs. Pour l'instant, j'y crois encore, mais j'y crois de moins en moins parce que si on continue à pas se parler comme ça, ça fonctionnera pas. Parce que c'est une chose de pas s'entendre, mais si tu jases à tous les jours, que tu jases, ou ben, pas à tous les jours, mais tu sais, du moins 3-4 fois semaine, tu jases aux 2 jours, ben, au moins, tu as de l'évolution. Mais quand tu te parles une fois semaine comme ça, là, ça n'a aucun bon sens. Puis il n'y a aucune façon que le dossier progresse si tu ne te parles pas. Ça, c'est évident. Là, c'est la base. Puis c'est un peu l'argument des joueurs aussi qui disent, oui, la MLB voulait avoir un médiateur, mais ils négocient pas. Fait que ça sert à rien d'avoir un médiateur s'ils sont pas à la table de négociation parce qu'on peut pas négocier tout seul. Donc vraiment, tu sais, ça commence à être laid. Puis quand tu laves ton linge sale, pas en famille, mais en public, ce qui commence à se faire de plus en plus entre la MLB et les joueurs, c'est signe que ça va mal. Là.
Il y a un vieil adage que mon grand-père disait, attachez vos tucs, messieurs, plus que tu brasses de l'avant, plus que ça pue. Ben, ça ressemble à ça. Puis chez mon MLB, by the way, sont complètement déconnectés de la réalité. Ça fait 2 ans qu'on est en pandémie. Eux autres, là, ils font une grève. Tu sais? Donne au monde le baseball. Fais ça, là. On a besoin de ça. Ben non, à la place, chicane-toi. C'est ça. Donne pas de l'argent aux jeunes des mineurs qui crèvent de faim des mineurs puis sont lycées. Non, non, fais ça. C'est sûr. Paye tes gars. Ouais, ouais. Tout ça est très, très logique, Manfred. Puis je parle des joueurs aussi, là. C'est parce que, à un moment donné, tu t'aides pas, là. Ben oui, mais comme des épines, nous autres, on va y retourner, là, parce qu'on aime le baseball. Mais ben, on devrait pas, mais... Mais en attendant, sais-tu quoi? S'il y a pas un 162 games, c'est correct. Là, cette année, on va pouvoir aller mettre nos foufounes au stade municipal à Québec, faire un petit 3 heures de route, m'aller voir les capitales, m'en faire un petit 1 heure et demie de route, m'en aller au stade Fernand Bédard, m'en aller voir les aigles, fait que...
Ben c'est ça, mais tu le dis, ultimement, c'est le partisan qui parle là-dedans parce que oui, c'est un lockout qui a été déclenché par les propriétaires, mais les joueurs en rajoutent aussi. Donc, ultimement, ça devient juste un arrêt de travail. Là, moi, c'est pour ça que c'est ce mot-là que j'utilise parce qu'ultimement, personne n'est de bonne foi. Mais c'est le partisan qui perd parce que en 2020, ben, t'as eu une saison de 60 parties parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. En 2021, en plus, tu te places du point de vue des partisans au Canada, ben, les Blue Jays, ils ont été à l'étranger pendant le 2 tiers de la saison. Là, t'ajoutes le camp qui est pousser comme ça, c'est plate pour ben du monde, mais ultimement, le fan qui s'assoit, qui vient de voir la saison de football se finir et dire « OK, je fais quoi maintenant? » Ben, il peut pas se rendre en Floride, se rendre en Arizona pour aller au camp d'entraînement puis profiter de cette vibe-là qui est unique. Non, il faut qu'attendre que cette guerre-là se continue. Donc, c'est immensément triste là, ce qui se passe.
Ouais, puis on pense que c'est relié. T'sais, oui, c'est relié à l'argent, mais au contraire d'être une bataille de millionnaires, là, c'est les millionnaires qui disent « Hey, ceux qui commencent, là, eux autres aussi, il faut qu'ils fassent de l'argent. » Puis, je suis 100% pour de réduire le nombre d'équipes dans les filiales parce que je trouve qu'il y en a trop. Donc, tu réduis le nombre de joueurs, le nombre d'élus qui passent vers le baseball majeur ou mineur du baseball majeur, mais tu augmentes les conditions. Donc, tu les payes un peu plus, tu les encadres un peu mieux. Et comme ça, quand ils vont arriver en haut, ben là, tu sais, ils vont pouvoir avoir un certain rythme intéressant versus d'en avoir tout plein, d'être cheap labor. Mais là, je pense que ça, c'est un, c'est une bataille, tu sais, on dit dans la vie, choisis tes batailles, là. Je suis content que l'association des joueurs prenne cette bataille-là et disent non, on va aller au bout de celle-là, là. Vous allez payer les joueurs des ligues mineures pour leur donner des conditions qui sont raisonnables, que si jamais, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui sera en haut, là. Ça veut dire que si tu t'assieds dans le baseball majeur, tu fais 4 ans, 5 ans, 6 ans dans la ligue mineure, puis que ça marche pas, mais au moins t'es pas endetté ou t'es pas devant rien, ou ce que j'ai même pas une scène, j'ai même pas un char, j'ai même pas assez d'argent à mettre de l'essence dans mon char quand j'ai mangé du beurre de peanut, de la jelly toute ma vie. Fait qu'au moins ils prennent cette bataille-là, puis ça, c'est louable aux joueurs, là.
Tu sais, ça n'a aucun bon sens de ne pas payer les joueurs. Puis tu sais, les gars, il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes pères, là. Imaginez pas donner les ressources à vos enfants. Là. Tu sais, c'est la jeunesse, faut les encourager, faut leur donner les moyens. C'est sûr que quand tu commences dans la vie, tu n'as pas une scène, là, mais faut que tu les aides. Puis surtout, si c'est des espoirs en qui tu crois, pourquoi cette mentalité-là de « Ah, ben s'ils sont capables de traverser les mineurs avec ces rigueurs-là, ils vont être bons des majeurs. » Arrête, là, donne-leur des bonnes conditions, donne-leur de la nourriture. Puis tu sais, même le logement, Les mineurs à cette heure, ils vont payer le logement aux joueurs. Mais tu sais, je parlais avec Charles Leblanc, puis il me disait, ben écoute, nous, ce qu'on a peur, c'est que les propriétaires soient cheap, puis qu'ils fassent les équipes des mineurs. OK, on va vous payer le logement, mais on va vous payer un studio pour 4 personnes, puis ça va être ridicule, tu sais. Et pourquoi tu prends pas soin de tes joueurs? Pourquoi c'est obligé d'être les joueurs des majeurs qui sont en réhabilitation, qui, quand ils arrivent dans une ville, disent, ben écoutez, après la game, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais payer le buffet pour les deux équipes, parce que je sais c'est quoi être un joueur des mineurs qui a faim, puis que les joueurs sont contents de voir un joueur des majeurs, non pas pour l'apprentissage qu'ils peuvent avoir, mais parce qu'ils vont pouvoir manger un steak le soir. Tu sais, ça n'a aucun bon sens pour moi de traiter les joueurs dans ces conditions-là. Puis, je suis d'accord avec toi, Max. Je suis content que ce soit le cheval de bataille de l'Association des joueurs et qu'on défende ce point de vue-là, même si, évidemment, l'Association des joueurs, c'est pour les majeurs, c'est pas pour les mineurs, mais c'est quand même relié. Il y a des dossiers qui sont connexes comme ça, puis tu n'as pas le choix de te battre pour cette association-là. Donc, vraiment, j'espère là-dessus que les gars des mineurs vont pouvoir avoir des avancées intéressantes parce que ça n'a aucun bon sens.
Ouais, puis on avait, c'est drôle que tu dis ça, parce qu'on avait Josué Pellé lundi, puis il nous disait ça exactement, que les joueurs dans les mineurs avaient hâte qu'un joueur des majeurs se blesse pour qu'il vienne jouer avec eux, justement, pour lui payer de la bouffe, tu sais, leur payer de la bouffe.
Imagine.
C'est ça, exact, on est rendu là. Charles-Alexis, le temps passe vite, j'ai envie que tu nous fasses le tour un peu, là, parce qu'on connaît tous Abraham Taureau, là, mais un peu faire le tour des Québécois qui sont dans les rangs mineurs, ou potentiellement un gars comme Charles Leblanc qui pourrait peut-être percer l'alignement des Marlins, là, maintenant.
Oui, c'est ça. Ben Charles Leblanc, c'est un des noms à surveiller, évidemment, qui est rendu dans la formation, l'alignement des Marlins de Miami avec le repêchage de classe 5, donc qui a été choisi. Il n'y a pas de repêchage des classes 5 de majeur cette année en raison du lockout, justement, mais a été choisi dans le repêchage classe 5 au niveau 3A, donc appartient maintenant à la filiale des Marlins. Puis, tu sais, je suis content pour lui parce que tu regardes là, les Rangers du Texas qui ont signé Corey Seager à la réco pour 325 millions de dollars. Tu regardes Marcus Semien qui est débarqué au deuxième but à 175 millions de dollars. T'as encore un gars comme Kenner Falefa qui est là, qui pourrait aller jouer au troisième en attendant que leur autre gros espoir, Jung Puss. T'as Nate Lowe au premier. Moi, je regardais ça puis je me disais, mon Dieu, mais Charles Leblanc, il n'y aura pas de place chez les Rangers. Donc, j'espère pour lui qu'il va peut-être pouvoir avoir un changement de décor. Puis les Marlins de Miami, je trouve ça intéressant parce que c'est une formation qui pousse, une formation qui fera pas forcément les séries en 2022, mais qui va essayer de se battre pour être dans la course. Là, c'est fini l'époque où les Marlins perdent 100 matchs par saison. Donc là, va avoir la chance de se joindre à cet alignement-là qui fait place aux jeunes, mais qui est capable d'être compétitif aussi. Donc, un gars qui a connu sa première saison complète dans le 3A et c'est un gars qui a vraiment du potentiel. Là, t'sais, en 2019, c'était un All-Star dans le 2A. C'est un gars qui a un bon coup de bâton aussi, qui est polyvalent défensivement. Donc, s'il y a un joueur qui peut avoir sa chance avec un gros début de saison dans les mineurs là, pour commencer à avoir quelques matchs dans le baseball majeur, ben, c'est Charles Leblanc.
Oui, puis on a parlé d'Abraham Taureau juste avant, mais j'en ai parlé en fait. Il y a des rumeurs qui envoient un Chris Bryant, par exemple, avec les Mariners. Il y a d'autres noms. Lui aussi, là, on pensait que son poste était assuré. Puis j'ai comme l'impression que si on commence à signer des Chris Bryant ou d'autres noms qui étaient nommés, que son poste pourrait être se retrouver un peu dans la même situation qu'il était avec les Astros. Hein.
Moi, ce que j'ai lu, puis évidemment, ça peut changer, puis c'est peut-être juste la bouillie pour les chats, là, mais c'est que selon Ken Rosenthal, les Mariners veulent lui donner au moins 400 at-bats durant la saison, et ça, peu importe les conditions. Mm-hmm. Donc, en ce moment, on le sait que J.P. Crawford est à l'arrêt court. Adam Frazier, qui a été acquis, va jouer au deuxième but. Et un gars comme Taureau, pour l'instant, a le troisième but qui appartenait à un gars comme Kyle Seager. Si on va chercher un Chris Bryant ou qu'on va chercher un gars comme ça, je pense qu'on veut en faire un joueur d'utilité, peut-être le promener un petit peu partout, même un peu dans le champ extérieur à la limite, mais lui assurer quand même plusieurs répétitions à chaque jour ou à chaque semaine du moins. Et même, j'ai lu que la possibilité d'échanger Adam Frazier pour faire de la place à Abraham Toro était là. Donc, j'ai vraiment l'impression que s'il connaît un gros camp, il va se mettre en position de force pour avoir quand même plusieurs at-bats. C'est sûr que ce sera pas forcément facile parce que les Mariners, c'est une jeune organisation émergente qui veulent ajouter du talent. Donc, ce sera pas nécessairement, on va pas lui donner sur un plateau d'argent, mais on a l'intention de lui servir. Puis, tu sais, je me dis, les gars, si on a été chercher ce gars-là, en pleine course contre les séries en 2021, contre notre closer à un rival de division, c'est qu'on croit en lui. T'sais, c'est pas juste un gars qu'on veut dire hey, écoute, on a donné notre closer à un rival de division en pleine course aux séries, mais l'an prochain, le gars qu'on a reçu, on va l'envoyer dans le 3 ou on va le faire poireauter. Je pense qu'on veut vraiment lui donner sa chance parce que c'est un gars qui frappe des deux bords, c'est un gars qui est capable de jouer partout sur le terrain. Donc, peu importe la situation, c'est d'à propos d'apporter un gars comme Abraham Toro sur le terrain. Donc, moi, je crois vraiment qu'il va avoir sa chance en 2022. Et là, c'est à lui de voir s'il est en mesure de la saisir. Mais vous savez quoi, j'ai l'impression qu'avec la dose de confiance qu'on lui a donnée, qu'il n'y avait plus du tout du côté de Houston, ben ça peut faire des miracles aussi parce qu'un gars en confiance versus un gars qui se demande c'est quoi sa place dans le baseball majeur, c'est pas la même game pantoute.
Ouais, puis 400 à battre, c'est significatif, c'est ça qu'il y a de besoin. C'est dans mes souhaits de début d'année, 400 à battre, ça vaut vraiment la peine. Même si c'est sporadique, là, que c'est pas sur une base régulière, ça va lui faire quand même une belle saison. Puis je lui souhaite vraiment qu'il ait ses 400 à battre.
Ouais, exact. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres Québécois à surveiller?
Ouais, ben, tu sais, il y en a un autre qui est proche puis qu'on pourrait voir vraiment cette saison dans le baseball majeur, c'est Otto Lopez. Lopez qui a joué, en fait, un at-bat avec les Jays en 2021. C'était quand il y avait quelques blessures puis qu'on a rappelé des gars comme Kevin Smith, comme lui. Et ce qui est intéressant, c'est que les Blue Jays, tu sais, sont vraiment stack partout, mais dans l'avant-champ, il y a encore des points d'interrogation et je doute pas qu'on va ajouter des pièces, mais tu sais, en date d'aujourd'hui, tu as Santiago Espinal au 3 et tu as Kevin Biggio qui est régulier au 2 là, à partir d'aujourd'hui. Donc, ça fait en sorte que ta profondeur, elle va être appelée plus rapidement. Des gars comme Kevin Smith et comme lui vont être les premiers à être appelés s'il y a quelque chose. C'est un gars, lui aussi, tu sais, encore une fois, je le répète souvent, mais qui peuvent jouer partout sur le terrain. Et l'idée pour ces gars-là, qui sont pas des premiers choix au total et qui sont pas le meilleur espoir du baseball majeur, c'est de trouver une façon de se rendre indispensable. Donc, si tu peux jouer partout sur le terrain, et que quand tu arrives dans les majeurs au bâton et que tu fais le travail la majorité du temps, ben ça fait en sorte que l'équipe va vouloir te rappeler puis ils vont trouver des places pour te mettre sur le terrain. L'avant-champ des Jays peut être malléable dans ce sens-là avec des gars qui peuvent jouer un peu partout. Donc, moi, je m'attends à le voir commencer la saison dans le 3A, mais je m'attends à le voir obtenir des at-bats quand même dans un camp d'entraînement s'il y en a, évidemment, là, si c'est d'à propos, là, parce que si on sera juste à essayer de préparer les gars des majeurs, ça se peut que ce soit différent pour les espoirs, mais si c'est au moins plus que 4 semaines, ben peut-être qu'il va avoir sa chance à quelques matchs ici et là. Donc, un gars comme Otto Lopez aussi, là, c'est sûr que lui et Charles Leblanc, là, c'est les deux gros noms à surveiller qui sont au haut de la pyramide là, pour rejoindre un gars comme Abraham Toro dans les majeurs.
Ce matin, vous avez la chance de croiser Otto Lopez. Là. Vous allez faire le saut. Il n'est pas très grand, il n'est pas très gros, mais quand il soigne la batte, il soigne. Puis quand il lance, la balle sort de sa main. C'est impressionnant. Il a des super bonnes mains aussi, mais il venait s'entraîner il y a quelques années au Centre Claude là, de temps en temps. Puis j'avais de la misère à croire qu'il allait percer. Mais à chaque étape, il répondait aux attentes. Meilleur frappeur de son équipe. Après ça, joueur de l'année dans le mineur pour les Jays. Il a réussi à avoir un at-bat dans le baseball pro. C'est surprenant ce qu'il fait avec une si petite stature. C'est la preuve que la shape, là, ça a pas nécessairement de lien pour atteindre tes objectifs dans le baseball majeur. Là.
Puis tu sais, ce que je trouve intéressant avec lui aussi, c'est que quand il a commencé la saison, il était dans le 2A au New Hampshire, puis on parlait beaucoup évidemment des Austin Martin qui a été changé depuis ce temps-là, mais de Jordan Groshans aussi, puis c'était comme les deux joyaux qui se partageaient le temps à l'arrêt court, puis qui jouaient sinon au troisième but au champ centre, mais c'était vers eux qu'on se tournait. Moi, ça m'a fait penser un petit peu en 2018 quand, justement, encore au New Hampshire, tu avais Vlad Guerrero Jr., Bo Bichette qui était là, mais ultimement, c'est Kevin Biggio qui a été nommé le MVP de cette ligue-là en 2018. Puis évidemment, j'y souhaite que ça se passe mieux à Otto Lopez dans les majeurs que l'an passé avec Kevin Biggio, mais le parallèle dans les mineurs demeure. C'est lui, Lopez, qui a eu la grosse séquence de coups sûrs consécutifs. C'est lui vraiment qui a été meilleur que Jordan Groshans dans le 2A, qui s'est mérité une promotion dans le 3A et qui s'est même mérité ultimement avant lui une promotion dans le baseball majeur. Puis Austin Martin non plus, oui, il a été échangé au Minnesota, mais il n'a pas joué plus haut que le 2A non plus. Donc, c'est lui des trois qui a connu à court terme, évidemment, parce que ça peut changer, mais à court terme, c'est lui qui a connu la plus belle saison des trois. C'est un gars qui a un beau potentiel et qui ne sera pas celui qui va faire le plus jaser puis qui ne gagnera probablement jamais le MVP dans la Ligue américaine ou la Ligue nationale un jour, mais un gars que ses gérants vont avoir puis qui vont se dire hey, tu sais quoi, je suis vraiment content de compter sur un gars comme Lopez parce qu'il me dépend tout le temps.
Oui, exact. Barbudeville, on peut te lire où?
Barbudeville.com. On peut aussi s'abonner à mon Patreon, Patreon/Barbudeville. On peut me lire sur Twitter, m'astiner des fois avec plusieurs personnes. Ouais, Keyboard Warrior, fait que j'aime ça faire des tweet fights des fois, c'est le fun.
Sinon, je t'ai veillé de partir un tweet fight avec toi, là, Barbu.
Oh, à propos du Canadien, tu vas me dire?
Ouais.
Oh, de Tyler Toffoli?
Non, ben, Toffoli puis du charme, là.
Oh! Mesdames et messieurs, restez à l'écoute.
Ouais, on s'en paye de ça en d'autres,
ouais,
mais.
Ouais, c'est ça.
Okay, c'est la bon, veille de te pogner avec du charme, là, on va avoir une discussion.
Oh! Okay.
Bon, Charles-Alexis Brisebois. Ouais, un autre hater, un autre. Charles-Alexis Brisebois, on peut te lire et t'entendre où?
C'est sur le passionmlb.com, évidemment, pour la lecture au niveau baseball, des textes à tous les jours sur l'actualité du monde de la balle. Puis il y en a, même si on est en lock-out, évidemment. Mm-hmm. Puis pour m'écouter, ben, c'est au 91.9 Sport, l'émission Passion MLB, la fin de semaine, samedi, dimanche à 15h. Puis dans les différentes émissions de la grille horaire régulière de la semaine comme collaborateur. Donc tantôt, justement, avec Stéphane Gonzalez, notamment, je vais être là. C'est là qu'on peut me retrouver le plus facilement.
On peut aussi mentionner que tu es dans les coulisses aussi. Là. Ça fait partie de tes rôles.
Dans absolument, dans lescoulisses.com, exact.
Merci Charles-Alexis, merci Barbu. Merci pour votre temps. On reprend ça dans deux semaines pour Barbu. Charles-Alexis, garantit qu'on reprend ça éventuellement. Peut-être quand la grève va achever ou pour nous expliquer comment ça s'est passé.
La grève va achever. T'es naïf, G.
Merci tout le monde. Barbu, mais que la grève achève.
Ça va bien aller.
Ça va bien aller.
Merci les boys. À la prochaine. Salut.
Merci. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.